session théologique sur le mystère du Christ par le Père Philippe le 23 août 1989 à Saint-Jeudard.
Troisième jour. Ça doit être le jour le plus fervent. On commence à s'habituer, un peu rôdi. Alors maintenant, on peut passer à la quatrième vitesse. Et foncer. Alors, nous allons entrer. Je ne vais pas commenter Saint Thomas, sauf une ou deux questions, dans un ou deux articles. Autrement, on va essayer de donner un petit peu une synthèse. Saint Thomas commence par préciser l'étude de l'incarnation comportera trois parties. Les harmonies ou convenances du mystère. C'est très important. Ordinairement, on passe devant ça à toute vitesse, sans comprendre du tout le sens de ça. Alors que ça me semble la chose capitale, l'esprit dans lequel on doit regarder le mystère d'incarnation. Et la lumière, c'est important. Son et lumière, le mode d'union du Verbe à la nature humaine. Les conséquences de cette union, c'est très net. Alors, les harmonies, convenances, donc, c'est une vision de sagesse. Comment le théologien doit-il aborder le mystère de l'incarnation? Dans quelle lumière doit-il regarder le mystère de l'incarnation? Vous savez bien, aujourd'hui, on comprend ça très bien. Vous voyez des lumières plus ou moins fortes. On aime les jeux de lumière aujourd'hui. On est habitué. C'est très important. On peut tout fausser ou tout éclairer. Les grands photographes et la photographie jusqu'au cinéma, montre très bien que par le point de vue d'un jeu de lumière, on peut tout fausser, au contraire, tout mettre en lumière. C'est très curieux. Ça, c'est très vieux. C'est la lumière sur laquelle on regarde une réalité. Alors, je vais simplement lire les différents aspects qui est dans cette question. Convenait-il que Dieu s'incarna? Première question. Capitale. Étant donné la sagesse de Dieu, comment comprendre l'incarnation dans ce grand mystère de la sagesse de Dieu? Ça, on va le voir. C'est capital. L'incarnation est-elle nécessaire au relèvement du genre humain? Quand vous prétendez que Dieu vient pour renouveler, pour relever le genre humain, est-ce que l'incarnation est nécessaire? Est-ce que Dieu pouvait prendre d'autres moyens? Oui, c'est important de comprendre que ce choix du côté de Dieu est absolument libre. Dieu pouvait très bien nous donner une économie. Économie dans le sens des pères de l'Église. C'est-à-dire une manière de gouverner le monde, toute différente. Dans l'hypothèse où l'homme n'eût pas péché, Dieu se serait-il incarné? Vous voyez, ça arrive en troisième lieu. Et après saint Thomas, ça arrivera en premier lieu. L'ordre est tout à fait différent. Satan a pris du recul. C'est ça qui est beau. Les grands artistes prennent beaucoup de recul pour donner beaucoup de lumière. Tandis que tu regardes tout de suite l'objectif. Parce que c'est à partir de là qu'on a dit qu'il y avait deux grandes thèses, ce qui est très faux. Dans l'hypothèse où l'homme n'eut pas péché, Dieu se serait-il incarné? Alors on dit l'hypothèse scotiste et l'hypothèse thomiste. Et on fait ça pour diviser. Alors on dit pour Don Scott. Et toute la perspective de Don Scott. Et derrière Don Scott, sa bonne aventure et les franciscains. Dieu se serait incarné de toute façon. Et aujourd'hui, alors Théard, l'évolution, et le Christ est le terme de l'évolution. Alors l'évolution ne continue qu'encore après, elle devrait s'arrêter puisque c'est le terme. Et le mystère de l'incarnation est l'achèvement de la création. Oui, c'est très très important, ça n'a l'air de rien, mais c'est capital. Est-ce que l'incarnation, c'est l'achèvement de la création, ou est-ce que l'incarnation est tout autre? Je crois que vous voyez bien, j'espère. Est-ce que la grâce est l'achèvement de la nature, ou est-ce que la grâce est autre chose? Mais faites un petit chêne comme ça. Voilà, création. Évolution. Parce qu'il faut regarder ça dans la perspective d'aujourd'hui. Évolution. Au terme, le Christ. Le Christ roi. Ou au contraire, la création qui demeure toujours. L'homme pêche, le péché. Le péché est une rupture. Une brisure dans l'évolution. Une rupture, une chute, et d'en haut, la sagesse miséricordieuse de Dieu, qui vient reprendre l'homme. C'est un schème. Un schème, on le fait et on le brise. Faut surtout pas rester dans des schèmes. Ils sont toujours faux. Ce de droite comme ce de gauche, c'est l'ontologisme. L'ontologisme, c'est le schème philosophique. Et ce n'est plus la sagesse. Alors on lutte l'un contre l'autre, comme les partis politiques. Il n'y a plus de politique aujourd'hui en Europe, il y a des partis politiques. Donc il y a des schèmes. On ne regarde plus l'homme, alors que la politique regarde l'homme. Alors droite, gauche. Vous voyez, les soirs d'élection, il faut écouter la télévision. On s'engueule les uns les autres. Hein. Là, 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 là. C'est exactement comme si on faisait un match de boxe. Allez, tombe. Je t'aurai la fois prochaine. Hein. Et puis, allez, voilà. Exactement ça. C'est exactement ce point de vue-là. Il n'y a rien à voir avec la politique. Il y a une épreuve de force, dialectique, c'est tout. C'est pour ça que je dis, c'est un schème l'évolution, l'ontologisme. C'est un schème philosophique. Et très grand danger, c'est tomber dans des schèmes. C'est très grand danger. Et l'évolution est devenue un schème. Pour moi, c'est devenu un schème. Alors que c'est pas ça. L'humanité, elle se développe comme elle peut. Comme elle peut. Et quand il y a un pied de cassé, on prend une canne. Alors le péché. Et à partir de là, oui, ça vient d'en haut. Ce n'est pas l'évolution. Le mystère du Christ, il doit être regardé à partir de la sagesse. Et non pas à partir de la création. C'est deux perspectives tout à fait différentes. On verra. Mais je vous avertis ça. Donc, troisième position, dans l'hypothèse où l'homme n'eut pas péché, Dieu se serait-il incarné? Le motif principal de l'incarnation a-t-il été d'effacer le péché originel? plutôt que le péché actuel. Convenait-il que Dieu s'incarna dès le commencement du monde? Ça, c'est très différent. Convenait-il que l'incarnation fut différée jusqu'à la fin du monde? L'incarnation, à quel moment ça se situe dans l'histoire de l'humanité? C'est une vision merveilleuse. C'est une vision, c'est très difficile à préciser, mais c'est intéressant. Et théologie de l'économie divine. Où est-ce que ça se situe? Bon, nous avons un plan, évidemment, avant l'incarnation, après l'incarnation. L'incarnation est un sommet. Alors, est-ce que c'est le sommet de la création? Il faudrait mettre ça comme ça. Parce que c'est pas tout à fait juste, ça. Le péché a eu lieu à tel moment. Puis Dieu a lampiné. Parce que le péché se situe très très vite pour nous. C'est même pas là, c'est ici. Création, je sais pas combien de temps Adam et Ève ont été heureux dans l'Éden, pas tellement longtemps, j'ai l'impression. Ou bien là on peut dire, ils ont été heureux, donc pas d'histoire, donc ça a duré très longtemps, c'est possible, j'en sais rien. Puis ça a lambiné, Dieu a fait la sourde oreille, puis tout d'un coup, Dieu a pris Adam, a pris Abraham. Abraham, c'est une reprise d'Adam. Ce sont les deux ans. Hein? Adam, Abraham. Puis à partir de là, le peuple. 2000 ans. Et la sagesse. Alors c'est là où il faut la mettre. Je peux la laisser là, parce qu'elle est toujours présente. La sagesse. À la place de considérer le Christ roi comme sommet de l'évolution, on le considère ici. Au moment d'un très grand déclin, deux déclins, le déclin de l'humanité, Abraham, le déclin du peuple d'Israël, la sagesse intervient, le Christ arrive. Il y a eu 2000 ans d'attente. Puis après, ça continue, l'Église. L'Église est pour l'humanité ce que le peuple d'Israël était pour l'humanité. Dieu conduisait le peuple d'Israël et par Israël il conduisait toute l'humanité. Par l'Église il conduit toute l'humanité. Et le retour, l'arrêt, à quel moment? Est-ce que c'est 2000 ans, 2000 ans? C'est pour ça que c'est si impressionnant les 2000 ans, vous voyez. Il y a un cap. Un cap à dépasser, ou au contraire un cap, j'en sais rien, vous non plus. C'est évident, mais c'est impressionnant, 2000 ans, 2000 ans. Et puis toute l'histoire de l'humanité, avant le Christ, avec des hauts et des bas, et des chutes, oh là là, terribles. Une humanité pécheresse. Alors, évidemment, le très danger, c'est de regarder des schèmes. Alors on oppose ces deux schèmes. L'évolutionnisme implique une montée, le Christ roi. Alors, après le Christ roi, la montée continue. Faire attention. Ça continue. Alors, je ne sais pas, ou pas, Oméga. Ça continue, ça monte. Et alors, pour certains, et c'est là les deux interprétations tout à fait différentes par rapport au peuple d'Israël. Les grands prophètes de l'Ancien Testament continuent d'être des prophètes pour l'Église. Parce que le Christ ne réalise pas parfaitement les prophéties d'Isaïe, d'Ézéchiel, de Jérémie. Et il continue. C'est pour ça que ça continue. Le Christ est un moment. Mais l'Église, d'une certaine manière, dépasse. Ça va plus loin. Et c'est pour ça que les prophètes de l'Ancien Testament continuent d'être les prophètes de l'Église. Il y a deux visions tout à fait différentes et très très curieuses. Il faut voir ça. schématiquement pour comprendre que ni l'un ni l'autre de ces schèmes n'est vrai. Faut pas tomber dans un schème en opposition avec l'autre. Oui, parce que c'est toujours la même chose. On risque, et ça continue, progressiste, traditionnaliste, de schèmes. Ne soyons ni l'un ni l'autre, soyons chrétiens. Et refusons ce schème qui ne vient pas de Dieu, qui est un schème. On est du Christ. C'est pas commode. Parce que quand on est dans un schème, on a l'avantage d'être dans un parti. Et on refuse d'être dans un parti. On est du Christ. Et on lutte avec ce mystère du Christ, puisqu'on est dans l'église militante. Voilà les deux schèmes. On est devant ça. C'est très gros ce que je donne là. Mais c'est vrai. C'est comme ça que ça se passe quand on regarde attentivement. Alors, regardons deux grands articles dans cette question. C'est beau, vous voyez, de la part du théologien, avant de regarder le mystère du Christ, arrêtons-nous, essayons de voir dans la vision de la sagesse de Dieu, Créateur, la place de l'incarnation, la place de la rédemption. Essayons de comprendre le lien mystérieux dans la sagesse de Dieu entre incarnation et rédemption. Sauveur. Comment comprendre le lien entre les deux? Y a-t-il un lien de nécessité? Y a-t-il un lien occasionnel? C'est ça la question de saint Thomas. Et elle est intéressante. Oui. Aujourd'hui, très facilement, on va faire deux traités totalement différents. Un traité sotériologique et un traité de l'incarnation. Je n'ai pas le temps de regarder. Je vous donne des références autres. J'essaie de comprendre. Alors, regardons d'abord. Convenait-il que Dieu s'incarna? Je vais lire cet article de saint Thomas pour que vous compreniez un tout petit peu ce qu'est cette structure très curieuse. Alors, les objections. Saint Thomas, toujours, donne les objections. Il ne convient pas qu'en Dieu, qui est de toute éternité, et la bonté essentielle se produisent aucun changement. Tout est immuable. Si vous parlez d'incarnation, il y a un changement en Dieu. Dieu s'est converti. Il a été impitoyable par rapport aux hommes. Débrouillez-vous, débrouillez-vous, débrouillez-vous. Vous avez péché, vous avez voulu faire ce que vous vouliez, eh bien, allez-y. Et un père de famille, un bon père de famille, je t'avertis, hein. Si tu commences à faire de la moto, vite tu rends. À 16 ans, la moto, mais c'est le rêve. Une grosse moto japonaise. On veut ça, c'est le rêve. On sera autonome. On prend fin de la tobidesse. Non, 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 c'est trop dangereux, c'est beaucoup trop dangereux. Parce que le père, il a 40 ans. C'est beaucoup trop dangereux. Et puis le fils, au bout d'un certain temps, si tu veux, fais-le. Et on le laisse tranquille. Alors au fond, c'est ça. Il y a eu un drame familial entre le père et le fils. Ce que je dis, hein, n'est pas... Certains l'ont dit, hein, des psychanalystes, Jung... Il y a un drame familial. Mais l'incarnation par laquelle Dieu se fait homme, à un moment donné du temps, ne s'oppose-t-elle pas à cette immutabilité? Dieu peut-il se convertir? Peut-il y avoir en Dieu un changement? Le Dieu avant l'incarnation, le Dieu après? Le Dieu furieux, en colère, qu'on voit après la chute? Qu'est-ce que tu as fait? Allez, va-t'en, tu purgatoire. l'Éden. Je peux plus te souffrir. Sois un errant, et puis tu verras. Alors est-ce qu'à un moment donné, Dieu, ça existe, hein? Deuxième objection, il n'est pas sage d'unir, alors ça c'est beaucoup plus philosophique, c'est même tout à fait philosophique, il n'est pas sage d'unir des éléments disparates pour constituer un être. Mais quel que soit, mais quoi de plus disparate que Dieu être essentiellement simple et la nature essentiellement complexe. On ne peut pas unir l'infini et le fini. Vous ne pouvez pas unir quelque chose qui est absolument simple et quelque chose qui est complexe. Vous allez faire un être hybride. Merleau-Ponty, qui est quand même un philosophe, quand il a été nommé professeur au Collège de France, dans son grand discours, prend exactement ce raisonnement. Merleau-Ponty, quand il était anormal, faisait partie du groupe des talents, ceux qui vont à la messe. Il était même président. Donc, bon catholique. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Après, nommé au Collège de France, il montre. On lui dit qu'il est athée, pas du tout. Il refuse l'incarnation. L'incarnation met Dieu dans le temps, simple, éternel. Et ici, le temps. On met Dieu dans le temps. Mettre Dieu dans le temps, c'est contraire à Dieu. Dieu est simple, et vous le mettez dans la complexité. C'est contraire à Dieu. L'incarnation, c'est une injure faite à Dieu. La plus grande injure. Un philosophe, c'est exactement la seconde objection de saint Thomas. Elle existe toujours. Vous ne pouvez pas penser que Dieu entre dans le temps. Il se salit les mains en faisant ça, alors que Dieu a des mains pures. Donc, c'est une objection tout le temps actuelle dans l'intelligence de l'homme, dans la raison de l'homme, je dirais plutôt. C'est plutôt la raison de l'homme. Oui, position dialectique. Peut-on faire la synthèse entre ce qui est infini et fini? Troisième objection, dans le souverain bien. Donc, Dieu, le souverain bien, ne peut s'unir au mal. Oh, n'y a-t-il pas du mal dans tout être corporel? La vieille objection manichéenne. Le corps est mauvais. Le sensible est mauvais. Je ne peux pas unir Dieu, le bien souverain et le mal. Vous voyez, c'est au fond très semblable à cela. La différence, c'est qu'ici, je mets bonté et puis le mal. La créature, c'est le mal. Faire une dialectique du bien et du mal. Le mal est... Et le mal s'identifie au corps. Saint Thomas sait très bien que le manichéisme demeure. Vous savez bien, on raconte, ça fait partie des légendes, mais les légendes, pour les historiens, c'est quelquefois plus vrai que tout le reste. On raconte que Saint Thomas a lutté toute sa vie contre le manichéisme. Manichéisme, et que saint Augustin n'a pas su totalement dépasser. Et saint Thomas, très proche de saint Augustin, au point de vue tradition théologique, il appuie énormément à saint Augustin. C'est la grande autorité au point de vue théologique. On raconte que saint Thomas a invité à la table de saint Louis, et aujourd'hui il serait Mitterrand. C'est vrai, il faut regarder les choses comme elles sont. Saint Louis n'avait pas d'auréole à ce moment-là. Saint Thomas, invité à la table de Saint Louis, Tu es son prieur. C'est inutile de perdre du temps. Moi, je suis fait pour travailler, intellectuellement. Réaction de Satan. Ça, les jeux. Là, tu crois, on perd du temps. Et son prieur lui dit non, il faut y aller. Dans l'obéissance, il y va. Mais saint Thomas sait très bien ce que c'est que l'obéissance. L'obéissance, vertu d'exécution. J'exécute, j'y vais. Mais on peut très bien continuer de penser. Je peux continuer de penser, je peux faire de la théologie auprès du roi. Le tout, c'est d'être à côté de lui, d'être aimable quand il me parle. Mais quand il ne me parle pas, je reprends mes pensées. Et tout d'un coup, saint Thomas oublie complètement qu'elle est à la table du roi. Il était pris par ses pensées. Alors il tape sur la table. J'ai trouvé. Ça lui dit, mais quoi? J'ai trouvé. Mais quoi? Oh, la réponse au manichéisme. Tellement ça le hantait, ça. La matière est bonne. Le corps est bon. La sensibilité est bonne. La passion est bonne. Dans le traité sur le Christ, où saint Thomas, je connais celui qui étudie les manuscrits de saint Thomas, eh bien, dans le traité du Christ, où saint Thomas a repris le plus son texte, il l'a raturé 5 ou 6 fois. C'est à propos des passions. Pouvons dire que dans le Christ, il y avait des passions. Avant, saint Thomas disait non. Le vieux res manichéen, qui se traduisait chez les stoïciens par le fait que les passions sont mauvaises. Eh bien, saint Thomas dit non. Dans le Christ, il y avait des passions. Parce qu'il était un homme. Alors il parle de pro-passion pour montrer que les passions dans le Christ n'ont jamais dominé. Elles ont toujours été dépassées. Vous voyez, cette question-là, on comprend très bien. Parce que je crois que le dernier reste manichéen du manichéisme, c'est-à-dire la passion est mauvaise. Ah, il est trop passionné, cet homme-là. Mais ça peut être très bon. Moi, j'aime bien les gens passionnés. Les gens qui ne sont pas passionnés, mais c'est pas drôle du tout, vivre avec eux. C'est pas drôle du tout, on leur marche sur leurs pieds, ça fait rien. On dirait qu'ils ont une sensibilité d'hippopotame. Ils sentent rien. Ils sentent rien. Les passions nous donnent un contact avec les réalités. On sent les réalités. On les sent pas. Alors évidemment, ça fait des étincelles. Deux êtres passionnés l'un à côté de l'autre. Comme quand vous frottez deux silex. Donc, troisième objection, vous voyez, le mal est bien. Quatrième objection, l'infiniment petit ne peut contenir l'infiniment grand. Celui d'autre part, qui gère de grandes choses, ne doit pas s'occuper des détails minimes. Et voici comme l'écrit Volusianus à saint Augustin. Que celui que l'univers ne peut contenir s'enferme dans le corps vagissant d'un enfant. Voici que le maître du monde consacre tous ses soins à une frêle créature. C'est très joli. Objection au point de vue du gouvernement. Au point de vue du gouvernement. Dieu gouverne l'univers. Dans sa sagesse. C'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu qui gouverne l'univers. La sagesse de Dieu doit garder un regard de sagesse. Un regard de lion. Vous savez, le lion, il ne vous fixe jamais. Il regarde l'horizon. C'est ça le lion. C'est extraordinaire. Quand vous pouvez être en face d'un lion, en cage, ou en face d'un lion qui, comme à New York, le parc est... Mais là, on met des fossés énormes, mais les lions sont en liberté. Alors, de temps en temps, ils viennent tout près. Le lion, un regard horizontal, la sagesse de Dieu. C'est contraire à la sagesse de Dieu, l'incarnation, parce qu'il faut que Dieu soit enfant. Les vagissements d'un bébé, c'est contraire à la sagesse de Dieu. C'est contraire. Parce que, nécessairement, il s'enferme dans... dans une petite cage, un petit enfant. C'est contraire à la sagesse de Dieu à ce moment-là. Dieu ne peut plus gouverner l'univers. Il ne regarde que les tables. Opposition entre les deux. Leur caractère universel. Parce qu'au fond, c'est ça, le caractère universel de la sagesse de Dieu. Et le regard tout à fait particulier, individuel de l'enfant. C'est contraire. Je ne peux pas unir le regard de l'enfant qui ne regarde que sa mère. Si belle et si sainte qu'elle soit. Ces objections fondamentales du rationalisme qui est en nous. Notre rationalisme s'oppose à l'incarnation. Et c'est vrai, ça. Je vous dis, jusqu'à Merleau-Ponty. Merleau-Ponty qui avait été chrétien, et puis sa philosophie l'a fait quitter la foi. La philosophie ou son épouse. Parce que... je ne veux pas trop préciser, mais je me souviens d'avoir rencontré la fille de Merleau-Ponty. Ah, des prémices dans le midi. Et on m'a dit, la fille de Merleau-Ponty est là. Elle a 16 ans. On dit, oh, ça m'intéresserait beaucoup de la rencontrer. À ce moment-là, je travaillais beaucoup Merleau-Ponty. Ça m'intéresserait beaucoup de la rencontrer. Alors on dit, on va vous la chercher. J'ai salué cette petite jeune fille, intelligente, comme son père, fine, astucieuse. Alors, je dis, j'aime beaucoup de travailler votre père, c'est vrai, parce que Merleau-Ponty est quand même quelqu'un d'intelligent, qui faisait des dégâts à ce moment-là. Hein. J'avais rencontré plusieurs étudiants qui faisaient de la philosophie avec lui et qui avaient perdu la foi. C'est pour ça que je me suis mis à l'étudier, pour voir comment Merleau-Ponty conduisait à cette attitude. Alors elle m'a dit, c'est pas drôle, j'ai retenu la phrase, c'est pas drôle d'être la fille d'un philosophe. Elle dit, pourquoi? Oui, parce que papa, il n'est jamais avec nous. Il est toujours dans ses idées. Il médite tout le temps. La sagesse universelle. Qui ne regardait pas la petite fille, qui aurait aimé avoir un dialogue avec son père, qui aurait aimé de connaître le cœur de son père. C'est tragique, et en même temps, ça faisait comprendre beaucoup de choses. Le dernier Merleau-Ponty, il s'est converti. Malheureusement, il est mort avant. C'est dans les œuvres posthumes. Merleau-Ponty qui découvre l'être sauvage. C'est comme ça qu'il l'appelle. Parce que le premier Merleau-Ponty, l'être, c'est un tissu de relations. Alors dans un tissu de relations, la pauvre petite fille était un petit caillou. Un tissu de relations. Tandis que le dernier Merleau-Ponty, l'être sauvage. Au-delà de toutes les conventions, au-delà de l'idée, l'être brutal. Alors la petite fille aurait eu là sa place. Mais je ne l'ai pas vue après. Hein. Bon, ceci c'est pour nous faire comprendre que ces objections sont toujours actuelles. C'est ça qui est merveilleux dans saint Thomas. C'est qu'il choisit ces objections. Il faudrait faire ça. Ce serait un livre sur saint Thomas qu'on n'a pas fait. Et il serait très intéressant. Saint Thomas choisissant les vraies objections. Pas les objections du coin de la rue, mais les vraies objections, les objections qui touchent l'homme dans son cœur, le bien et le mal, et dans son intelligence, l'universel et l'individu. C'est l'objection classique de toute la philosophie européenne. Il y a des philosophes qui sont pour l'universel et le tout, et il y a des philosophes qui sont pour l'individu, l'essentialisme et l'existentialisme. En gros, c'est ça. Il y en a à peine à se situer au-dessus. On regarde l'être, il existe dans la singularité. Et l'être, quand je le pense, il est universel. liée aux sensations. Alors parce que c'est une intelligence liée aux sensations. Les sensations, c'est toujours singulier. Une fleur, c'est singulier. Une tulipe, c'est singulier. Autrement, vous regardez l'oignon, alors il est universel. C'est justement le fait d'aller vers la source, elle est universelle. Mais la fleur, elle est singulière. Alors voici la réponse de saint Thomas. Il est théologien. Donc devant ces objections, qui sont les objections de l'homme de toujours, très curieux, et c'est très intéressant d'étudier ces quatre grandes objections. Vous voyez, le filet du démon pour dire l'incarnation, c'est contraire à Dieu. Je crois que c'est Lucifer qui dit ça. Je ne dis pas que saint Thomas avait des petites conversations avec Lucifer, je ne crois pas, mais facile. Je me souviens aussi là, une conversation. Oh, c'était pendant la guerre. Sitôt la guerre, je crois. Une étudiante qui faisait de la philosophie. Et je prêchais dans la Sarthe. Et très gentiment, on m'avait invité à prendre le café où il y avait beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui étaient là. Alors dans la conversation, une étudiante de philosophie qui me dit « Père, est-ce qu'on a le droit d'interroger le démon ?» Alors je dis « Ça vous séduit ?» Ah, je comprends. C'est quand même un type intelligent. Peut-être quand même intéressant de pouvoir dialoguer avec lui. Moi, je fais de la philosophie. Il a sa philosophie. Et c'est une philosophie qu'on n'enseigne pas. C'est intéressant. J'ai très bien vu que c'était très sérieux. Alors, je n'ai pas répondu devant tout le monde. Je dis, venez me voir tout à l'heure. Puis j'ai essayé de voir. Et en effet, c'était ça, la curiosité d'interroger quelqu'un d'intelligent. Elle m'a donné les filières. Je dis, mais comment? Oh, c'est facile, je connais tel, tel. Je peux interroger le démon. Je n'ai qu'à dire oui. Je dis, mais attention. Attention. Le démon nous a toujours par l'intelligence. Toujours. C'est vrai. La seule chose qui lui reste, c'est d'être intelligent. Alors il séduit. Séduction prodigieuse à l'intelligence. Je crois que c'est les tentations du démon, ça. Très, très enraciné en nous. Très habile là-dessus. On ne peut pas supporter l'incarnation. L'incarnation, dans la perspective de saint Thomas, et je peux dire dans la perspective, je crois, du croyant, c'est la réponse de Dieu au démon qui séduit la femme. Et c'est comme ça qu'on doit regarder l'incarnation. C'est la réponse de Dieu à ce fait que le démon, l'aîné, qui séduit la petite dernière, la Benjamin, dans sa fragilité, et il l'a séduit. Je t'aurai. Et il l'a eu. Il l'a séduite par l'intelligence. Vous serez comme Dieu, semblable à Dieu, connaissant le bien et le mal. Vous voyez la dialectique du bien et du mal. Et il se met au-dessus. Et c'est lui qui enseignera ça. Je comprends que c'est séduisant. Il séduit Ève par l'orgueil de l'intelligence. Et la réponse de Dieu, c'est l'incarnation. Cette petite que tu as séduite, eh bien c'est mon chef-d'œuvre. Eh bien, je vais te montrer. Je l'ai laissée libre. Mais je vais la reprendre. D'une façon encore beaucoup plus forte, en faisant que l'homme et la femme que tu ne supportes pas, que tu n'acceptes pas, eh bien je les prends directement sous ma protection. Vous voyez, la sagesse qui descend pour s'unir à l'enfant, pour s'unir à l'homme dans toutes ses étapes, pour être directement celui qui est le gardien de la nature humaine.
saint Thomas de l'orthodoxie, de l'Orient. Alors voici, comme le note saint Jean d'Avacène, par le mystère de l'incarnation, nous sont manifestés à la fois et la bonté, et la sagesse, et la justice, et la puissance de Dieu. Sa bonté, car il n'a pas dédaigné d'épouser l'infirmité de notre propre chair. Sa justice, car l'homme ayant été vaincu par le tyran du monde, Dieu a voulu que ce tyran fût à son tour vaincu par l'homme. Et c'est en respectant notre liberté qu'il nous a arrachés à la mort. Sa sagesse, car à la situation la plus difficile, il a su donner la solution la meilleure. Sa puissance infinie, enfin, car il ne peut y avoir rien de plus grand qu'un Dieu fait homme. Il convenait donc que Dieu s'incarnât. C'est beau ce texte, saint Jean d'Avacène. Saint Jean d'Avacène montre que l'incarnation, loin d'être opposée à Dieu, au contraire, il y a quelque chose d'étonnant par rapport à la bonté, la sagesse, la justice, la puissance de Dieu. Et alors voici le raisonnement de saint Thomas. Parce que saint Jean d'Avacène reste très descriptif. Ce n'est pas une théologie scientifique. C'est pour ça qu'elle est plus facile à comprendre. Elle est très descriptive. Et convenable pour un être tout ce qui relève de sa nature même. Ah, voilà, tout de suite. La philosophie est là, vous savez. Quand on est dans un terrain dans lequel il n'y a qu'une toute petite couche où on peut cultiver, et puis il y a le roc derrière. C'est très impressionnant. À Rimont, pas loin d'ici, on a ça. C'est pour ça qu'on attire des orages. Et c'est pour ça que l'autre jour, le cyclone a été là. Parce que ça attire les orages. Tous les gens très sensibles sentent. Ils sentent, il y a des lignes de force, on est là en face. C'est un lieu qui tue ou qui fait vivre. C'est très curieux, c'est très très curieux. Et on voit les lignes de force. La première fois que j'étais à Rimont, il y avait un orage, j'étais très impressionné. C'était comme un orage en pleine montagne. raisonne, il est homme. S'il raisonne de trop, et qu'il oublie d'être contemplatif, il se replie sur lui-même, satisfait. Pharisien de l'intelligence, il raisonne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le moulin à café. Indéfiniment, et il n'y a plus de grain à moudre, mais ça continue de tourner. Il y a des gens comme ça. C'est vrai. Un animal ne raisonne pas. Alors on est heureux de raisonner. Parce que par là, on fait quelque chose de propre à l'homme. C'est ainsi qu'il sied à l'homme de raisonner. Puisque par nature, il possède une faculté appropriée à cela. La raison. Oh ! La nature de Dieu. La nature de Dieu. Natura Dei. C'est la bonté. Vous voyez, saint Thomas ne prend pas ici la simplicité. C'est la bonté. Dieu est simple, mais il est bon. Et c'est vrai, vous ne pouvez pas, vous voyez, l'objection, la simplicité. C'est bien l'objection de la bonté, mais ça on verra. Or, la nature de Dieu, c'est la bonté. Tout ce qui est essentiel au bien convient donc à Dieu. Tout ce qui est dans l'ordre du bien. Mais il est de l'essence du bien, donc de la nature du bien, de se communiquer. Un homme bon se communique. Il rayonne, comme l'enseigne Denis. Il appartient par conséquent à la nature du souverain bien de se communiquer souverainement à sa créature. Dieu, par bonté, se communique le plus qu'il peut à sa créature, dans la mesure où la créature est capable. Et cette souveraine communication se réalise quand Dieu s'unit à la nature créée de façon à ne former qu'une seule personne de ces trois réalités, le Verbe, l'âme et la chair, selon la parole de saint Augustin. La convenance de l'incarnation apparaît donc manifestement. Mais comme c'est simple, contemplez la bonté de Dieu et vous trouverez pourquoi cette communication unique, cette communication plénière, la communication non seulement de l'être qui est bon, mais de la personne même de Dieu. C'est plus seulement l'artiste, c'est la personne de Dieu qui se communique. Dieu livre ses secrets, il se donne. Dans l'incarnation, Dieu se donne. On ne peut pas aller plus loin. Il se donne lui-même. C'est fou. Et c'est très simple. C'est parce que Dieu est bon. Vous voyez, la raison du théologien, de théologie scientifique, où trouver une nécessité là où il y a un choix absolument libre. C'est dans une liberté totale que Dieu réalise ça. Alors, où trouver la nécessité? Dans la nature même de Dieu, sa bonté. Mais la liberté n'est jamais la dernière des raisons. Vous savez, quand les gens disent « Oh, je suis librement, je suis librement », le psychologue, il a dit « Je vais voir, oh, tes motivations, c'est pas du tout libre, c'est pas du tout libre ». C'est ce que fait le psychologue. À un point tel que certains psychologues, freudiens et autres, disent « Il n'y a jamais un acte libre, jamais. C'est l'inconscient qui commande tout. » Vous voyez, le rock caché. C'est ça qui commande tout. Parce que pour un freudien, le rock, c'est l'inconscient. C'est ça qui commande tout. Non, c'est pas vrai. il y a des actes libres. Il y a des actes libres. Mais la liberté n'est jamais la dernière explication. On ne pose pas un acte par plaisir de poser un acte libre, à moins d'être complètement philosophe, de toute façon complètement idiote. Parce que c'est l'homme qui disparaît, et c'est le jeu de la liberté. Il y a une statue de la liberté, mais il n'y a pas un homme qui soit la liberté. Et il n'y a pas un dieu qui soit la liberté. Ça n'existe pas, ça. C'est une abstraction. On en fait une statue. C'est très curieux. Le libéralisme américain, la statue de la liberté. Quand on arrive à New York, pour la première fois, on a un choc. On entre dans la statue de la liberté. C'est quand même curieux. C'est quand même curieux. Et je crois que c'est très vrai. La liberté, c'est toujours quelque chose de second. C'est jamais premier. C'est pour ça, jouer la liberté pour la liberté, c'est artificiel. C'est un monde artificiel. On ne respecte plus la nature. La nature comme telle est en vue d'une fin. En vue d'un bien. Et le bien fonde la liberté. Et l'amour fonde la liberté. C'est depuis Descartes que la liberté est considérée comme un absolu. Et c'est ça qui a tué l'Europe. Vous comprenez bien, liberté, fraternité. Mais si la liberté est un absolu, il n'y a plus aucune fraternité. Aucune. Il faut l'amour pour qu'il y ait la fraternité. Il faut la bonté. Il faut ensemble chercher la finalité. On n'a pas compris ça. Égalité, encore, encore en plus. Il faut comprendre que la liberté n'est pas un absolu. Dieu librement se donne. Il se donne parce qu'il est bon. Voilà la motivation de l'incarnation dans un langage psychologique. Si Dieu réalise l'incarnation, c'est parce qu'il est bon et qu'il veut aller le plus loin possible de sa bonté. Dieu a eu une pitié extraordinaire pour Ève. Il a voulu la nouvelle Ève. C'est très grand, ça. C'est un objet de contemplation. Vous voyez, c'est là où vous voyez que la théologie de saint Thomas n'est pas du tout rationnelle. Elle est contemplative. Tout le mystère de l'incarnation est vu dans la communication de la bonté. Et la communication de la bonté qui va jusqu'au bout. Alors, dans cette perspective, les réponses aux objections sont faciles. Premièrement, Dieu demeure immuable dans l'incarnation, car en s'unissant à la créature, ou plutôt en l'unissant à lui-même, c'est elle qui change et non pas lui. Or, il est normal qu'un être essentiellement instable, qui est la créature, soit transformé par l'être qui, lui, ne change pas. L'incarnation ne change pas Dieu, puisque c'est sa nature la plus profonde qui réalise l'incarnation. Vous voyez, si je vous dis, Dieu n'a jamais été autant Dieu que lorsqu'il s'est incarné. Dieu n'a jamais été autant Dieu, puisque c'est sa bonté qui réalise l'incarnation. Donc c'est sa bonté souveraine. Là, on a compris qu'il était bon. Tandis qu'on a quelquefois beaucoup de peine à comprendre qu'il est bon. Quand on regarde la créature. Vous voyez, c'est très important pour nous, ça. C'est très, très important. Quand on est en phase d'objection, il y a trop de souffrance dans le monde. Il y a trop de mal dans le monde. Il y a trop d'erreurs dans le monde. Et donc, Dieu ne peut pas être bon. Eh bien, regardez. Le Christ. L'incarnation. Il y a une œuvre de Dieu qui est parfaitement bonne et qui révèle la bonté de Dieu. Il y en a une qui révèle parfaitement la bonté de Dieu. Ça, c'est très fort. Hein. Vous voyez bien, il n'y a pas d'apologétique là-dessus. C'est le mystère du Christ, et puis c'est tout. Ne répondez pas, mais c'est évident que la créature, il y a des tas de failles, il y a des tas de faiblesses, mais il y a une œuvre qui est bonne, c'est le Christ. Dieu ne pouvait pas faire quelque chose de plus parfait et de meilleur que le mystère de l'incarnation. C'est là où la bonté de Dieu se manifeste pleinement et totalement. Deuxième réponse, à n'envisager que la nature humaine comme telle. Rien en elle ne postule l'incarnation, mais à considérer la souveraine bonté de Dieu. Il devient convenable que Dieu s'unisse à notre nature pour la sauver. Donc la seconde raison, c'est les éléments trop disparates, la simplicité, la complexité. Alors ça te répond tout simplement, mais c'est évident, si vous regardez la complexité, vous ne trouverez jamais un motif pour l'incarnation. Mais si vous regardez la simplicité, elle est liée à la bonté. La bonté souveraine. Regardez Dieu, et vous comprendrez pourquoi il y a l'incarnation. Mais si vous regardez l'homme, vous ne comprendrez pas. Fouillez l'homme, vous ne verrez pas de motif à l'incarnation. Non. Parce que c'est trop complexe. C'est trop différent. C'est très beau aussi, ça. On pourrait dire, parce qu'on pourrait ajouter un petit bémol, qui serait très actuel. Fouillez la misère du cœur de l'homme, et vous trouverez le cri de l'enfant au désert qui appelle Dieu et qui appelle une réponse du paraclet de Dieu dans sa bonté, puisque le paraclet c'est Dieu dans sa bonté qui écoute. On est bon quand on écoute le cri d'enfant dans le désert. Vous voyez, et c'est ce que la psychologie aujourd'hui fait. Elle creuse la complexité de l'homme. Et elle creuse tous les abîmes de souffrance qui sont dans le cœur de l'homme. Et bien là, on ne découvre pas une raison, on découvre un cri. Mais la théologie du cri, elle n'est pas scientifique. C'est la théologie mystique. Parce que le cri, c'est un geste. C'est plus une parole. Quand un animal est traqué, il crie. Quand un homme est traqué, il crie. Quand un enfant est traqué, il crie. Il parle pas. Il dit pas maman, maman. Après maman, maman, il y a le cri. Et la mère disparaît. Et tout disparaît, il n'y a plus que le cri. Le cri, c'est le geste. La réponse à la troisième objection. Le bonté et le mal. Ce n'est pas un mal pour les natures créées d'être changeantes et corporelles. En cela même, elles manifestent la bonté d'un Dieu immuable et spirituel. Ce n'est pas un mal pour elles d'être soumises à la souffrance. Ça, c'est très rude pour nos mentalités d'aujourd'hui. Hein ? Ça, c'est le scalpel du théologien scientifique. Alors, tiens, ça tombe à être insensible, c'est effrayant. La souffrance, c'est pas étonnant. C'est la justice de Dieu. C'est vite fait. Ce n'est pas un mal pour elle d'être soumise à la souffrance. Celle-ci, elle est faite de la justice de Dieu et procure sa gloire. C'est rude. Le seul véritable mal est le péché Dieu, de l'ordre de sa divine bonté. Il ne convenait pas sans doute. Mais rien ne s'oppose à ce qu'il prît une nature créée et corporelle, soumise au changement et à la souffrance. Vous voyez, ça nous semble assez sec, hein, quand vous lisez ça. Mais c'est la théologie scientifique, hein, n'oubliez pas. En théologie mystique, on dirait autre chose. On montrerait comment la souffrance, c'est un mal. C'est un mal. Quand certains me disent que c'est pas un mal, attention, c'est un mal. La souffrance est un mal. Mais ce mal peut être dépassé par un plus grand bien. La souffrance permet au cœur de l'homme de toucher certains abîmes qu'il ne toucherait pas autrement. Ça, c'est vrai. Et donc, Dieu permet la souffrance parce que Dieu nous donne la possibilité de nous servir de la souffrance pour aller plus loin dans l'amour. Et c'est le mystère de l'incarnation. Dieu permet la souffrance. Dieu a permis le premier péché parce qu'il savait, dans sa sagesse, qu'il pouvait s'en servir. Voyez, je ne peux pas permettre le mal si je ne peux pas tout rattraper. Ça, c'est un indice, c'est évident. Autrement, je suis sadique. Allez, fais ton expérience, mon vieux. Je ne peux pas faire ça. Mais Dieu sait qu'il peut tout rattraper. Et il rattrape tout par sa bonté souveraine dans le mystère d'incarnation. Donc, voyez, je mettrai... Parce que c'est sec, ça, hein. C'est très juste, mais c'est juste scientifiquement. Et quand on parle scientifiquement du mal, on fait mal. Je ne peux pas parler scientifiquement du mal. Je dois parler amoureusement du mal. Amoureusement pour l'homme blessé. C'est l'homme blessé que je dois regarder. Et quand il est blessé, je l'aime encore plus. Parce qu'il est blessé. Alors à ce moment-là, je me sers du mal pour aller plus loin. Mais c'est vrai, là c'est la limite. Là, vous saisissez la limite de la théologie scientifique de saint Thomas. Mais c'est important de le comprendre. Voici la réponse de saint Augustin dans sa lettre à Volusianus. C'est l'objection dernière, la sagesse. Qu'il ne peut pas s'enfermer dans le regard d'un enfant. Dieu, pour s'être incarné, c'est saint Augustin qui parle, ne laisse pas de gouverner le monde. Et son immensité ne s'est pas contractée dans un corps fragile. Une telle conception est le fruit de la pensée humaine. C'est un petit coup de chypnode à Volusianus. Tu projettes sur Dieu ce que tu penses. Ce que disaient les anciens, si un éléphant faisait de la théologie, il dirait que Dieu est un éléphant. C'est exactement la même réponse de saint Augustin à Volusianus. Si facilement on projette sur Dieu ce que nous pensons, Dieu, pour s'être incarné, ne laisse pas de gouverner le monde, et son immensité ne s'est pas contractée dans un corps fragile. Une telle conception est le fruit d'une pensée humaine, incapable de s'élever au-delà des réalités corporelles. Ce qui fait la grandeur de Dieu, ce n'est pas sa masse, mais sa puissance. Aussi n'est-elle pas à l'étroit dans un corps limité. Et de même que la parole de l'homme se propage intégralement à chacun des nombreux auditeurs qui l'entendent, ainsi le Verbe de Dieu tout entier demeure-t-il en tout lieu à la fois. L'incarnation n'est pas une prison. dans une grotte, la grotte de Bethléem. C'est Dieu présent personnellement et qui demeure toujours présent à tout l'univers, comme créateur. Mais il est présent d'une manière unique dans le petit enfant Jésus. Mais ceci, c'est une réponse qui n'en est pas. Mais c'est une réponse qui est à la Saint Augustin, qui montre que cette objection oublie que la sagesse divine peut assumer au plus intime d'elle-même la nature humaine sans être limitée par cette nature. Il l'assume, il l'agrandit, il la transforme. Et s'il n'est pas, lui, limité par cette nature, parce que Dieu n'est pas changé.